RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les grandes gueules avec vous, bien sûr, sur RMC, RMC Story. Les grandes gueules, et si vous avez raté les GG, vous avez les podcasts à votre disposition. Les podcasts, c'est l'émission que vous pouvez retrouver en décalé. Il y a les discussions des grandes gueules, il y a aussi les petites discussions, ce qu'on peut se raconter pendant la pub. Aujourd'hui, Fatima Hidbounoua est là, Charles Consigny aussi, ainsi que Laura Barton-Martinez, une sophrologue, une prof et un avocat. C'est la troisième heure des grandes gueules. Taxer l'héritage dès le premier euro, d'accord ou pas d'accord? Vous en parlez avec nous au 32-16. Faut-il armer les agents dans les transports en commun? Oui ou non? Bonne mesure ou pas face à l'insécurité? Et puis à midi moins 20, un maire de la Manche qui interdit une plage naturiste ou nudiste. Pourquoi? Parce que, en fait, il en a assez de voir des exhibitionnistes et des actes sexuels. Du coup, il ferme la plage naturiste. Alors, on pénalise tout le monde plutôt que de faire la chasse aux pervers. Vous venez en discuter à midi moins 20. Apparemment, c'est une plage qui est très connue. Du côté de la Manche, c'est à Dragé-Ronton. Elle est très connue, répertoriée dans le monde du naturisme et du nudisme. Vous venez en parler à midi moins 20. On va commencer d'abord par la taxation de l'héritage.
Cet héritage tombe entre des mains non éclairées. C'est l'apocalypse en édition populaire.
Rends l'argent, tu verras ça ne pousse pas. Rends l'argent, tu t'en mordras les doigts. Rends l'argent, tu verras c'est pas pour toi. Rends l'argent, de façon...
C'est la CFDT qui fait cette proposition. Elle veut taxer tous les Français dès le premier euro au nom de, deux points, on ouvre les guillemets, la justice sociale.
Et le syndicat appelle les responsables politiques à faire preuve de courage et à assumer. Ça va peut-être bouleverser une partie de leur électorat, c'est ce que dit la patronne de la CFDT, mais il faut y aller. En fait, il faut préciser en France que l'héritage est aujourd'hui déjà taxé, mais pas systématiquement. Par exemple, pour une transmission d'un parent à son enfant, le système fonctionne ainsi. Chaque enfant bénéficie d'un abattement de 100 000 euros par parent. Donc, en dessous de 100 000 euros, tu ne payes rien, et au-dessus, tu payes. Voilà. Alors, bien sûr, si le lien entre la personne qui est décédée et la personne qui va hériter est plus éloigné, ben là, tu payes beaucoup plus. Tu peux faire aussi des donations de bons vivants, ce qui permet aussi d'exonérer, d'avoir des exonérations fiscales. Ce qu'elle dit est assez logique aussi. En France, aujourd'hui, le travail ne paie plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être riche, il faut être un héritier. Pour, par exemple, pouvoir s'acheter un appartement ou pouvoir être propriétaire, il faut avoir déjà une belle somme ou un héritage, hériter d'un appartement ou d'une partie, etc. Non. Donc ça pose un problème parce que le contrat social, c'était quand même que par ton travail, tu puisses t'élever socialement, changer de classe sociale et pourquoi pas devenir riche. Aujourd'hui, tu ne deviens plus riche par ton travail. Alors le problème, c'est que la CFDT va pas au bout de la logique. La logique voudrait que on taxe davantage l'héritage, mais dans ce cas-là, on taxe beaucoup moins le travail. Et c'est pas ce qu'a proposé ou alors j'ai mal compris la CFDT dans son intervention.
Qu'est-ce que tu en dis, Laura? C'est du racket ou c'est une bonne chose?
Moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. Avant d'entamer mon propos, non, mais dans le sens où moi j'ai hérité de rien, mon mari n'a hérité de rien et on est multipropriétaire à l'heure actuelle parce qu'on a bossé. Donc ce que tu viens de dire, désolé, mais mon exemple vient de le démonter. Pour moi, il s'agit d'une énorme hypocrisie sociale et politique. Pourquoi? Parce que il suffit que vous créiez, au moment où vous achetez votre maison, vous êtes les parents, vous créez une SCI, vous mettez vos enfants dedans. Déjà, il y a plus de taxation sur la succession. Ensuite, si vous avez un petit peu d'argent, ça vous coûte à peu près 10 000 balles. De votre vivant, en dessous de 60 ans, vous donnez tout à vos enfants, vous gardez les usufruits et hop, terminado l'histoire. Sauf que ça, on oublie que ça, c'est pas accessible à ce qu'on appelle les petites gens. Ces petites gens que moi, je vais essayer de défendre. Moi, les seules personnes que je trouve autour de moi qui ont des réels problèmes avec l'héritage, ce sont des gens qui n'ont pas les moyens de récupérer leur maison familiale. Et c'est pas avec un abattement de 100 000 euros parce que en plus, quand vous héritez, vous devez d'abord payer ce que vous devez à l'État avant de toucher votre héritage. Donc en fait, l'héritage, pour moi, alors moi je vais faire une mesure courageuse comme le veut la CFDT, pardon, zéro taxation sur la maison, sur la résidence principale. À partir, bien sûr, on le cadre pour une personne qui toucherait, je sais pas, exemple, moins de 90 000 euros par an, et ben elle ne paye rien sur la transmission de la maison de ses parents. Je suis désolée. Enfin, Donc en fait quoi? Moi je bosse d'arrache-pied. Pourquoi? Mon mari il fait 90 heures semaine. Pourquoi? Pour que ensuite tout ce qu'on bâtit pour notre fille, ça tombe dans les mains de n'importe
donne
qui.
Donne ta fille tout de suite. Parce que pardon.
Mais moi je l'ai fait. Mais pourquoi moi je l'ai fait?
Ta fille elle a hérité. Sauf elle aura 60 ans. Elle aura besoin de cet argent.
Moi je l'ai fait. Mais je l'ai fait pourquoi? Parce que j'ai pu mettre avec mon mari 10 000 balles. Parce que j'ai pu mettre avec mon mari 10 000 balles sur ma table. Parce qu'avec mon mari on est capable d'assumer le poids financier d'une SCI. Mais que là ma meilleure amie qui vient de perdre son grand-père et la collègue de ma mère qui est en train de perdre sa mère.
Laura, ta fille aura besoin d'être aidée lorsqu'elle aura 20 ans, lorsqu'elle aura 30 ans.
Mais ça veut dire
pas
quoi dans ce pays?
Non, mais
tu veux valoriser le travail. Tu veux valoriser le travail. Donc ça veut dire, vas-y, cravache comme un chien pendant des années. Mais ensuite, par contre, le fruit de ton travail, c'est pas toi qui l'auras ni tes gosses. Pardon, mais elle est où la justice sociale?
Non, t'as pas compris. Je veux valoriser le travail, c'est-à-dire que je veux que les gens puissent vivre dignement leur travail,
mais pour
puissent
faire
devenir propriétaires.
Mais pour faire quoi? Donc en fait, on continue une société de consommation où, donc dans ces cas-là, si ton argent, il n'est pas fait pour être
donc
mis
en fait,
dans
toi,
l'immobilier,
tu veux que les
protéger
gens
ses
à
enfants.
60 ans, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vit jusqu'à 90 ans, donc tu hérites à 60 ans. C'est intéressant d'hériter à 60 ans. À 60 ans, ta vie est faite. Je veux dire,
c'est pas
tes
ça
enfants,
que...
ben tes non. enfants, faut
eh
les
ben
aider
non.
quand ils en ont
eh bien non,
besoin.
Là, tu vois, mon amie, elle a 35 ans, elle vient d'hériter d'une baraque qu'elle va être obligée de vendre, et donc toute sa vie, elle va rester locataire. Super. Alors qu'elle aurait pu bénéficier à la propriété. Et ça veut dire
parce qu'elle n'a pas les moyens de payer
parce
de droit de succession
de la
elle va vendre la baraque, et avec l'argent de la baraque, elle s'achètera quelque chose. Je vois pas.
Mais attends, la baraque, elle fait 160 000 euros. Tu veux qu'elle achète quoi avec? Une fois qu'elle a payé le droit de succession, qu'elle a payé le notaire, qu'elle a payé les
impôts. Et qu'ensuite, pardon,
moi je trouve ça dégueulasse. Moi je trouve ça dégueulasse parce que moi qui ai les moyens, je vais pouvoir racheter la maison de mes parents.
Et moi, des boss, pardon, je trouve ça dégueulasse. Comme des chiens et qui sont payés moins de 2000 euros, ça effectivement, ça fait.
Mais pourquoi tu viens le mettre en parallèle? Parce que attends, non, on pourrait s'interroger, on pourrait faire les deux. Je suis désolée, puisque là,
dans le système américain,
depuis 2017, on est à 28% de plus d'augmentation de sociétés qui se cassent la gueule. Rien n'est fait pour augmenter la croissance dans ce pays. On est là qu'à réfléchir à des économies de bout de chandelle.
La transmission d'entreprise, d'ailleurs, c'est un vrai sujet.
Mais
je regardais justement
là
les impôts sur les transmissions de patrimoine. En France, ça rapporte 21 milliards d'euros aux finances publiques françaises. Et alors, je ne savais pas, à l'échelle européenne, en fait, ces 21 milliards d'euros représentent 44% des recettes collectées dans toute l'Union européenne. C'est-à-dire que là aussi, on est champion de la taxe sur la transmission de
patrimoine. Il y a beaucoup d'argent à récupérer dans les années qui viennent parce qu'il y a toute la génération
des boomers bien sûr.
Qui va malheureusement disparaître le plus tard possible, bien entendu.
Qui sont concernés.
C'est quand même une génération. Non, moi je suis pas boomer, moi je suis après. Les boomers,
Portugal,
ça s'arrête vers 62-63.
Portugal, Suède, 63. Portugal, Suède, Norvège, Autriche n'ont pas de droit de succession.
Ouais,
et c'est d'ailleurs des pays qui, économiquement, se portent aussi plutôt bien dans la transmission de patrimoine et de patrimoine d'entreprise.
Oui, mais aux États-Unis, on taxe l'héritage assez fortement. En revanche, on taxe très peu le travail.
Fatima.
Et c'est un pays qui incite à travailler.
Fatima, ensuite, on ira voir Guylaine au 32-16.
Alors, j'entends les arguments d'Olivier, et au moins, si c'est une pensée globale présentée comme ça, qu'un politique la présente.
Je pense que je suis assez minoritaire dans ce
Non, mais voilà, mais quand on voit taxer l'héritage dès le premier sou, là, on a vraiment l'impression, on va vous taxer jusqu'à la mort. Même au-delà, là, on a l'impression, même ton cadavre, on vient le ponctionner. Mais surtout, ce qu'on néglige complètement, c'est l'humain. Ça veut dire que dans l'héritage, vous voyez, on est en train de dire, oui, les gens sont de plus en plus individualistes, oui, le lien et tout ça. Mais justement, la famille. Moi, je veux bien qu'on essaye de détruire la famille. La famille, c'est quoi? La famille, c'est quand tu travailles. Ce qui te donne envie de te lever le matin aussi, c'est de se dire, je vais léguer quelque chose à mes enfants. Il y a plein de gens qui travaillent et qui travaillent dur. On entendait l'argument qu'a donné Laura, c'est de dire, je travaille dur, mais en fin de compte, ce qui me porte, c'est que je vais laisser à mes enfants. Et il y a plein de gens qui sont portés par ça. Être mère ou être père, c'est ça, c'est de se dire je vais laisser quelque chose à mes enfants. Alors ça fonctionne mal parce qu'on met au moins 6 générations pour sortir de sa classe sociale.
Non,
donc ça fonctionne mal.
Je suis désolée,
il y a plein de choses à faire.
Oui,
mais de là venir.
Mais je bosse, c'est ça la minorité, c'est les gens qui
pardon,
se lèvent.
Tout le monde bosse, Laura, arrête de dire ça. Mais je pense que
tous les gens que je connais qui se lèvent le matin qui veulent cravacher, c'est l'État qui leur met des bâtons dans les roues.
Non, non, mais comme ça, il finit.
Est-ce que tu sais si tu vas hériter de quelque chose, toi, ou pas, ou tu as hérité de quelque chose ou pas?
Là, c'est compliqué. Ma mère vient de mourir, donc j'ai tellement traîné. En plus, c'est très dur de faire l'administratif aussi, parce qu'en fait, ça rend réel. Donc moi, j'étais dans un déni total, dans le sens où même appeler, il faut dire, oui, voilà, elle est décédée, envoyée, donc je suis très lente, et mon père est malade. Donc effectivement, je suis même pas dans ces questions-là, là, je suis
dans la souffrance.
Dans la souffrance,
et dans le deuil.
Voilà, donc je suis pas du
tout. On a Guylaine qui veut intervenir avant de te donner la parole, Charles Consigny. Bonjour Guylaine.
Bonjour à tous.
Ça vous fait réagir personnellement, cette histoire, cette proposition?
Déjà, merci de m'écouter. Bonjour à tous et bravo, je vous suis depuis quelques années maintenant et je vous trouve tous formidables. Voilà, c'est très instructif de vous suivre et vraiment chapeau à tous.
Merci.
Déjà d'une. Deuxièmement, Fatima, je suis de tout cœur avec vous pour la simple et bonne raison que j'ai perdu ma maman au mois de mars cette année, je veux dire, et je suis en plein dans les droits de succession. Et voilà, je voulais intervenir tout simplement pour dire que ma maman me laisse un appartement qui est estimé à 150 000 euros. J'ai été propriétaire de, je sais plus, 12 ou 15%. Nous l'avions acheté à deux, mais elle en était propriétaire. Et donc, elle voulait me faire une donation pour que le moment venu, je n'ai rien à payer. Malheureusement, elle est décédée avant. Ouais. Donc, à aujourd'hui, sur les 150 000 euros de l'appartement, donc il y a 100 000 euros d'abattement auquel j'ai droit en tant qu'héritière. Et je vais devoir payer 20% sur le reste. Au niveau de l'État. Et donc, j'ai à peu près 8000 euros de frais de succession que je vais devoir régler là.
Vous allez pouvoir les payer?
Je me suis débrouillée, heureusement, avec ma banque. Pour le coup, ils ont été sympas. Donc voilà. Mais en fait, ce que je voudrais dire, c'est que je trouve assez scandaleux le fait que l'État veuille systématiquement prendre un euro au niveau de l'héritage, parce que cet argent, c'est pas non plus, pardon de dire ça, mais c'est vrai que c'est pas non plus énorme ce que je vais avoir. Je vais pas hériter de 300 000 euros, mais c'est quelque chose. J'ai prévu de faire le permis de mes filles, de mettre un peu d'argent de côté pour nous, pour nos vieux jours à mon mari et à moi. J'ai 55 ans et mettre un peu d'argent de côté pour les filles, pour les aider à démarrer plus tard. Et c'est ce que ma maman souhaitait aussi. Elle m'avait dit, je veux que tu fasses ça, je veux pas que tu t'enquiquines à mettre un locataire et être ennuyée avec tout ça.
Pourquoi elle n'a pas fait
avec
des donations de son vivant?
Elle voulait le faire et malheureusement elle est décédée avant. Voilà, le notaire a un peu traîné, si vous voulez, et avait promis, oui, ce sera fait au mois de janvier, puis après, au février, et elle est décédée le 28 mars. Donc, c'est vraiment pas de bol. De toute façon, même si on l'avait fait, c'était caduque si le décès arrivait dans les moins de 6 mois qui suivaient.
Ce sont des biens sur lesquels, déjà, vous payez des taxes, des revenus, enfin, vous payez tout au long de votre vie, donc au moment
mais
où...
Voilà.
Enfin, il y a plein de choses qu'on paye plusieurs fois.
Au moment où vous mourrez, si vous voulez,
donation du vivant, SCI, c'est des choses qui parlent quand on a vraiment...
Laissez-moi finir la phrase.
C'est des choses qui parlent quand on a beaucoup d'argent. Ça veut dire que quand t'as pas énormément d'argent, tu peux pas faire donation du vivant parce que tu sais pas combien de temps tu vas vivre. Et donc t'as peur après d'être
un poids pour tes
enfants. Et des fois t'es pas au courant. Donc il faut aussi voir que quand on est très riche, on raisonne pas comme la classe moyenne et comme monsieur et madame tout le monde. C'est ça que je voulais dire.
Charles.
Non, moi je remarque que sur ce sujet-là, comme sur beaucoup de sujets, et en particulier les sujets fiscaux, il y a un problème qui est que, au fond, ce sont les classes moyennes et les classes moyennes supérieures qui se font avoir, qui payent plus de taxes en proportion, tandis que les ultra-riches, contre lesquels je n'ai rien, mais eux sont quasi exonérés, en réalité, de cette fiscalité, parce qu'ils se débrouillent par des jeux d'optimisation fiscale pour échapper à la solidarité, ou on l'appelle comme on veut. Moi, je suis... Et d'ailleurs, c'est un des rares sujets sur lesquels les libéraux sont plutôt pro-taxation, c'est-à-dire que
c'est pour ça
on considère, quand on est libéral, que c'est quand même l'effort qui doit être récompensé. Et je pense que les... patrimoine important doivent faire l'objet de taxation au moment de l'héritage pour remettre un peu les compteurs à zéro.
Parce qu'il n'y a aucune méritocratie.
Moi, exactement. Moi, ce que je souhaite rémunérer, c'est le mérite, c'est l'effort individuel.
Oui, mais
et donc je serais assez pour, en réalité, alléger le fardeau fiscal dans ce domaine-là comme dans les autres, des classes moyennes et classes moyennes supérieures, et en revanche être peut-être un petit peu plus intelligent s'agissant de l'optimisation fiscale qui est pratiquée comme une espèce de sport par les très grandes fortunes, pour les amener à payer quand même leur juste part et à ce que il y ait un peu plus de remise à zéro des compteurs de ce côté-là.
On a Eric qui veut intervenir dans la discussion. Il est du côté des Landes. Bonjour Eric.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce que vous en dites alors de cette proposition taxée dès le premier euro? Alors dites-moi.
Ah non, mais là, moi, heureusement que je suis arrêté au bord de la route. Enfin, je suis comme un fou.
Respirez.
Écoutez-moi, je vais vous faire un résumé très rapide. J'ai 58 ans, je suis parti à 18 ans, j'ai devancé l'appel à l'armée. J'ai bossé à 19 ans, j'ai dû être arrêté un mois dans ma vie. J'ai bossé comme un âne. Aujourd'hui, j'ai de la chance, j'ai une maison. Et à l'endroit où j'habite, ça vaut, 750 000 euros. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais la vendre, je filerai l'argent à mes filles et je vais m'en aller. Je vais m'en aller. C'est pas possible quand même. Arrêter les... Et en plus, je suis adhérent à la CFDT, donc je vais commencer par sortir de la CFDT. Ça va être fait très vite. Non, faut arrêter. Il y en a marre. Il y en a vraiment marre. Quoi.
Attends, déjà, fallait pas y aller. Hein.
J'ai bossé, oui, c'est pas faux. J'ai attendu 55 piges pour y aller, j'ai peut-être fait une connerie, mais bon, c'est pas grave. Il faut arrêter. Non, il faut arrêter tout, là, il y en a marre. Et c'est vraiment. Et quand j'entends en plus nos amis de la LFI, heureux, mais c'est même pas la peine. J'aurais voulu parler sur le premier sujet, mais bon, je vais pas y revenir.
Oui, mais pardon, vous, Eric, moi je suis d'accord avec vous. Marie-Lise Léon, hein, c'est elle qui a fait cette proposition pour la CFDT, elle va pas jusqu'au bout cette logique. La logique voudrait, à mon avis, la bonne logique voudrait qu'on taxe un peu plus l'argent hérité et qu'on taxe beaucoup moins l'argent issu du travail. C'est ça la bonne logique. Oui, parce que je suis désolé, oui, on est dans une société...
Si mes ouais. enfants héritent, bon, en plus, moi j'en ai une, elle a tout compris, elle est partie au Québec depuis 5 ans, mais si mes enfants héritent, c'est que moi aussi j'ai bossé. Et mes enfants, en ce moment, ils attendent...
Moi, je préfère que vos enfants soient bien payés, ils n'ont pas besoin de l'héritage que vous avez...
Ils vont quand même leur utiliser le droit de la maison principale.
Non, mais ma fille est au Québec, elle a compris par rapport à ce qu'elle gagnera en France. Ça fait 5 ans qu'elle y est, elle reviendra pas. Et la seconde, j'ai la chance, eh bien, elle bosse, son concubin bosse. Bien sûr, il faut
mais en plus, si
vous... ils ont de la chance, ils ont droit à rien. Et elle a déjà sa maison, ma deuxième. Elle a eu sa maison, elle avait 25 piges. Donc c'est des gens qui bossent. Alors pourquoi ils hériteraient pas de ce que moi j'ai bossé?
L'État se sert. Je suis assez d'accord. Parce que
on en prend une partie.
On vous dit, c'est au nom de la justice sociale. Donc l'État dit, on va prendre. Et vous inquiétez pas, c'est nous qui allons utiliser cet argent au nom de la justice sociale.
Bah non, c'est ça le problème.
Sociale, non. Moi, je vais en quoi est-ce que ça va permettre aux plus modestes de mieux travailler et de pouvoir acquérir quelque chose si c'est l'État? Non.
Mais là, on parle d'une petite succession.
Non, mais peu importe si tu veux.
La succession d'Éric Technicien, c'est pas la grande succession.
Mais la grande succession sont des dispositifs qui ont été mis en place par l'État lui-même, sont des niches fiscales qui ont été mises en place par l'État lui-même. L'État veut de la justice sociale au nom de niche fiscale que lui-même a mis en place pour les super riches. Et donc, il taxe les modestes alors que les riches, eux, vont y arriver. C'est de la schizophrénie complète. Fous la paix aux gens, comme le dit Laura, qui ont bossé. Il existe des systèmes.
Mais tout le monde
s'ils veulent transmettre à leur enfant, il n'y a pas de raison que derrière, au passage, on leur remette un coup de râteau.
Dans ce cas-là, fous la paix aux gens qui travaillent.
Mais aussi, pareil. L'État est schizophrène. Il est
des deux côtés. Tu es obligé de les mettre en contradiction, ce que je dis. Bah non, je suis désolée.
L'argent quand même.
Mais non, mais et ben dans ces moi j'ai dit zéro impôt sur une maison sur la résidence principale que tu donnes à tes gamins. Ensuite, celui qui va léguer le petit appartement parisien, là tu dégommes. Moi j'ai pas de problème avec ça. Mais à un moment donné, les gens dans ce pays.
Tu veux dégommer. Tu dégommes pas non plus.
Ceux qui bossent, qui se sont crevés le cul, qui ont pas vu leurs gamins. Si pour eux leur modèle c'était je vois pas mes gamins, mais par contre quand moi je vais fermer les yeux, mes gamins seront à l'abri et je vais continuer de les accompagner comme ça. De quel droit l'État, qui en plus utilise l'argent mais n'importe comment, va se servir chez moi?
J'ai déjà donné la moitié de mon argent.
Qui aura conclu notre discussion? Est-ce que c'est du racket taxer l'héritage dès le premier euro? On va voir ce que vous en pensez. Oui, carrément. Regarde, 77-23. Hein. Allez, on va dire ça comme ça. Oui, c'est du racket. À suivre dans les GG, dans les grandes gueules. Ce qui se passe du côté de Lyon Métropole. La présidente de la métropole de Lyon qui veut créer une brigade de 200 agents armés dans les transports en commun. On va vous expliquer pourquoi elle veut cette proposition des agents armés dans les transports en commun. Bonne idée ou pas. C'est au 32-16 que ça se passe. Il est 11h20.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
GG les grandes gueules sur RMC et RMC Story. Dans 10 minutes, on sera dans la Manche, sur une plage naturiste, sur la plage de Dragé-Ronton, où le maire a pris un arrêté d'interdiction, alors que c'est une plage qui est connue pour la tourisme. En fait, le problème, c'est qu'il y a des pervers qui viennent. Et donc, le maire a dit, maintenant, il y en a marre. Allez, naturiste.
Laura, il va l'été.
On arrête.
Ouais, j'adore.
Elle y va pour
encore, c'est des plages de naturisme.
32-16 pour en parler là dans 10 minutes avec les GG. En attendant, on va aller dans les transports en commun de la métropole lyonnaise. En fait, madame la présidente de la métropole de Lyon, madame Sarcelli, qui est présidente LR, veut créer une brigade de 200 agents armés. Cette décision, elle est motivée
par le décès d'un arrêt cardiaque d'une dame qui venait d'être victime d'un vol à l'arraché.
Alors c'était un homme qui avait 82 ans et qui a succombé à une crise cardiaque parce que il a été choqué par ce qui s'est passé. On lui a arraché sa chaîne en or. C'était un jeune homme accompagné de sa compagne qui a fait ça. Les deux ont été arrêtés. Le couple a été placé en détention provisoire et risque la perpétuité dans cette affaire. Et donc la métropole de Lyon se saisit de ce drame. Il faut armer. Alors quand on dit armer, attention, cette brigade de 200 agents, a priori, c'est sur le modèle de la région parisienne. Il y a déjà une brigade régionale en Ile-de-France. Ils ont des bombes lacrymo et des matraques télescopiques. Voilà. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il faudra aller plus loin et permettre à ces agents, alors après il faut des autorisations, il faut de la formation, d'avoir une vraie arme, parce qu'il y a effectivement ces faits de délinquance qui se multiplient dans les transports en commun.
Laura ?
Taser Girl est de retour.
Taser Girl.
Des tasers
c'est le prochain épisode de ces prochains volets de Marvel.
Ben oui, mais moi je trouve que c'est la bonne alternative. C'est dissuasif, c'est pas létal, tu risques pas de mourir avec un coup de taser.
Taser.
Ouais. Enfin, un moment.
Les tasers.
Oui, je trouve qu'il y a rien de mieux. Pareil.
On devrait tous avoir un taser.
Pour nos, non, mais
notamment dans les grandes gueules.
Mais nos policiers municipaux, ce nos gendarmes. Drôle. Je suis désolée.
Oui. À la place de l'alerte modération, un coup de taser.
Ah ben là, ils s'arrêtent. mais à un moment donné,
pas de cloche, mais un coup de taser.
Mais non, mais c'est comme pour les refus d'obtempérer, tout ce genre de choses. Moi, je suis contre le fait, effectivement. Quand on dit qu'un refus d'obtempérer ne mérite pas la mort, je suis complètement d'accord avec ça. Mais il faut pas non plus toujours petit coup de taser. Hop, y a plus personne. On est
donc dans les transports en commun.
Taser.
Dès qu'il y en a un qui déconne, un petit coup de taser. Bon, Fatima, ouais. Ça te rassurerait?
Déjà, penser la mort atroce de cet homme-là.
Oui,
non seulement tu te fais voler, t'as la peur de ta vie, il meurt comme ça. Je pense à la famille de cette personne. T'imagines ton père ou ton grand-père meurt comme ça. Tu dois avoir une telle colère, un tel sentiment d'injustice que c'est franchement atroce. Et donc, mon mépris le plus profond pour ceux qui les voleurs tueurs.
Un couple charmant.
Non, mais tu te rends compte, c'est vraiment, tu vas voler un vieux monsieur, mais il y a rien qui justifie ça. Franchement. Donc, voilà, c'était déjà la première chose, parce que vraiment, ils sont c'est à vomir, en vrai. En ce qui concerne comment empêcher ça, des agents plus nombreux aussi, parce que. De la présence sur le terrain. Moi, je prends les transports en commun à Paris, je croise rarement, je les croise pour me faire contrôler.
Oui.
Mais sinon, la sécurité, il y a plein de moments, toutes les fois où j'ai pu être suivie ou agressée, ou je prends les transports et je suis une femme, donc c'est arrivé plein de fois. Il y avait personne autour, donc c'est ça le truc, c'est la solidarité entre passagers et souvent de femmes qui vont intervenir et vont faire la technique de on se connaît ou des choses comme ça.
Donc ça veut dire que la vidéosurveillance, parce qu'on l'a mis partout, ça a des limites.
Ça remplace pas les gens, la vidéosurveillance, parce que tu dis, ah ben c'est bien, on va pouvoir trouver qui t'a tué ou qui t'a agressé. Oui. Mais l'agression a eu lieu. Donc moi ce que j'aimerais, c'est que l'agression n'ait pas lieu. Donc un côté dissuasif, parce que tu sais que les contrôles sont là, qu'ils sont fréquents, qu'il y a des gens, qu'il y a des agents de sûreté. Déjà, quand ils montent dans les transports, les gens ne mouffent pas la plupart du temps. Et ensuite, qu'il se passe quelque chose après. Parce que vous vous rappelez, on avait le sauveur masqué, là, celui qui venait, qui disait voleur, pickpocket, et qui les bombe pour les repérer. Et ce qu'il disait, c'est que très souvent, c'est les mêmes qu'il voyait. On les arrête, ils vont faire un petit tour. Et puis tu les revois les mêmes, et ils vont recommencer.
Voilà, madame,
et on nous dit, c'est rien, c'est du vol. Mais voyez comment le vol, il peut finir comme ça.
Madame la présidente, elle veut que ça se sache et que ce soit dissuasif. On se dit, dorénavant, si je tente le coup. Dans une rame, je risque de tomber sur un agent armé, où je prends un coup de tonfa, où je me fais arrêter, où je prends un coup de taser.
Il faut aller au bout de ta logique. Et il faut il y avait les petits bruits de taser. Il faut aller au bout de ta logique. Est-ce qu'il se passe quelque chose aussi quand tu es arrêté?
On apprend, par exemple, qu'à la RATP,
il
y aurait des emplois fictifs. Peut-être que ces emplois pourraient servir à ça, là. Castex utilise ces emplois.
Est-ce que tu es pour?
Mais bien sûr, je suis tout à fait favorable à ces brigades armées. Matraque, taser, kalachnikov, lance-flammes.
Moi, j'aime la demi-mesure.
En tout cas, on est quand même... Non, mais il y a souvent des incidents dans le métro. Il y a quand même dans le métro, dans le RER, dans tous les transports en commun. Il y a quand même beaucoup de zinzins Oui. Beaucoup de mecs errants, qui gueulent, peur, hein. qui sont bourrés, qui sont allumés, qui sont quand même assez angoissants.
Qui créent un climat anxiogène.
Il y a en plus...
C'est pas fou d'avoir dit que la psychiatrie était...
Il y a en plus le phénomène des Kaira, même si on les voit un peu moins, je trouve, dans les
transports. Moi, je suis pas dans le métro.
Il y a les bandes de pickpockets.
Mais il y a les bandes de pickpockets. Et on est rassuré quand même quand il y a... on en voit dans le métro parisien, par exemple, des agents de la RATP spécialement suréquipés, des espèces de Robocop. Bon, c'est sûr que c'est rassurant et je pense que ça a un effet dissuasif. Moi, ce que je ne comprends toujours pas, c'est pourquoi ils patrouillent par groupe de 8 au même endroit. Je maintiens que quand même, on pourrait les mettre par deux et les répartir. Et à la limite, ils s'appellent entre eux s'ils ont besoin de renfort, s'il y a besoin d'intervenir. Mais je trouve qu'on pourrait les répartir plus pour qu'ils soient plus présents à plus d'endroits en même temps, ça me paraît nécessaire. Et en toute hypothèse, tout laisser reposer sur la vidéosurveillance, c'est vraiment une espèce de solution de facilité qui effectivement ne permet aucune prévention. Parce que quand vous avez un type qui est alcoolisé ou qui est sous l'effet d'une drogue ou qui est schizophrène et qui a l'intention de boxer quelqu'un au hasard dans le métro, il s'en fout complètement d'être filmé ou pas. Et je maintiens aussi que si on passait tout le monde à un temps de travail plus important, on pourrait aussi avoir des fonctionnaires disponibles pour assurer la sécurité dans les transports par ne serait-ce qu'une présence, parce que il n'y a pas besoin forcément d'avoir une armoire à glace comme on a dans les agents RATP de la sûreté pour dissuader. Il suffit dans le train, par exemple, la simple présence des contrôleurs, souvent ça dissuade quand même de commettre des incivilités ou autres. Donc je pense qu'on pourrait mettre plus de monde sur le terrain. Je pense que Monsieur Bagayoko, on verra ce que dit l'enquête sur son emploi fictif à la RATP. J'aurais préféré qu'il soit sur le terrain.
Mais vous savez, dans les établissements scolaires, des chefs d'établissement, la différence entre un chef d'établissement qui est là le matin, mais juste là, il sort de son bureau au moment où les élèves arrivent, et il est là, il passe, il ne fait rien, juste il passe, il a cette présence, c'est beaucoup, beaucoup plus calme qu'un chef qui reste dans son bureau. Moi, tous les chefs que j'ai eus et qui tenaient la boutique, ils étaient présents. Il y avait une histoire de disponibilité, de visibilité et de présence. C'est pas forcément une histoire de faire, quoi, ce côté un peu
dissuasif. C'est dissuasif.
C'est dissuasif, comme le policier qui était venu et qui nous parlait de la police de proximité, où on savait qu'il marchait dans la rue pour aller d'un endroit à un autre. Il n'était même pas en mission. Mais le fait d'être dans la rue, de marcher dans la rue, les gens les voyaient et se disaient on n'est pas seul, on n'est pas abandonné, il y a quelqu'un. Donc
surtout à une époque, on nous pousse à prendre de plus en plus ces transports en commun. Parce que c'est ça aujourd'hui. Hein. On les développe,
le vélo,
toutes les villes ont leur tram.
On nous pousse vers le métro, vers les bus.
Et après, donc, autant se sentir en sécurité dans ces transports en commun.
Et après, ils vont nous dire pour les bijoux, par exemple, vous rappelez ce moment où on nous disait ne portez pas de bijoux.
Oui, c'est vrai. Ne portez pas. C'est essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas apparent.
Pas apparent, comme pas si apparent. C'était nous le problème.
Donc c'est ça.
Comme la fille qui est violée, ta jupe est trop courte, tu mets pas de bijoux. Moi, je trouve ça horrible de rendre coupable la victime. Donc porter des bijoux, c'est les voleurs les coupables.
Donc dissuasif, transport en commun, faut-il armer les agents? Alors ce ne sont pas des armes létales, ce ne sont pas des pistolets, c'est plutôt des tonfa, des bombes lacrymogènes, ou comme le disait Taser Girl, Laura Barton Martinez, d'avoir des tasers à ce moment-là. Est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre, ou des photos de Madame Monique Barbu?
Alerte, modération.
Coup de taser.
Là, ce serait un coup de taser.
Alors oui.
Arrêtez avec ce bruit.
Oui, bonne idée. Arrêtez. 32-16, vous avez réagi sur les réseaux sociaux. Et dans un instant, le 32-16 pour parler de ce maire de la Manche qui interdit le nudisme.
Ah, des nudistes dans les transports.
Pourquoi il y en a pas des rames, y en a eu. Dans le métro, t'en vois, excuse-moi.
Il pourrait y avoir des rames de métro réservées aux naturistes.
Moi, il y avait un homme nu comme ça, mais un peu.
Attends,
fou,
vas-y.
Dans le tramway, il était allongé par terre et tout. Il y avait.
T'es à poil?
Il y avait, oui, il était nu, mais il était à moitié fou.
Il était défoncé, oui, c'est ça.
Le pauvre. Non, ça.
Belle histoire. Quelqu'un l'a ramassé, on a appelé les
parents. Mais il y avait des enfants, donc les parents essayaient de cacher.
Moment de grâce.
Les yeux d'herbe. Ah, c'était, comme m'a dit notre chère femme politique.
LKM, tu te souviens, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est revenue pour dire qu'elle vote Édouard Philippe.
Ouais,
et vous avez vu, il y a eu un effet immédiat.
Le baiser de
Édouard Philippe baisse dans les sondages.
Il est midi moins 25. Le naturisme interdit sur cette plage de la Manche, la plage de Dragé-Ronton. Vous venez en discuter avec nous aujourd'hui. Est-ce que c'est compliqué de faire du naturisme, du nudisme? Est-ce que tout de suite il y a des pervers? venez en parler avec
j'aimerais bien que les naturistes nous appellent.
Il est midi moins 25.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Midi moins 20, vous êtes avec les GG, avec les Grandes Gueules. Vous avez raté les Grandes Gueules, vous avez les podcasts à votre disposition. Les podcasts, c'est sur l'appli RMC, sur notre site internet rmc.fr. C'est l'émission que vous pouvez rattraper en différé. Et puis vous avez les discussions et ce qui se dit aussi en coulisses, d'autres petits sujets de discussion que je vous laisse découvrir. Là, notamment, on a parlé de est-ce qu'on est les GG sont plage, pas plage, maillot une pièce, maillot deux pièces. Comment sont-ils à la plage? Je vous laisse découvrir ça sur, dans les podcasts. Tiens, puisqu'on parle de plage, on va parler de naturisme et de ce qui se passe du côté de la plage de Dragé-Ronton.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés.
Est-ce que tu l'as vu, mon cul? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu, mon cul? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu, mon cul? Est-ce que tu l'as vu?
Est-ce que tu l'as vu du côté de Dragé-Ronton dans la Manche? Les naturistes ne sont plus les bienvenus sur cette plage. Pourquoi?
Oui, parce que le maire aurait constaté des infractions sexuelles. Il y a eu des signalements sur cette plage. Visiblement, ça n'a, voilà, c'est, le naturisme n'attire pas que des gens tranquilles qui veulent simplement se baigner cul nu, comme on dit, mais ça attire des personnes qui ont des mauvaises intentions. Et donc, il a décidé d'interdire la pratique du naturisme sur cette plage dans la Manche. Alors, bien sûr, le mouvement naturiste s'y oppose. Une association a déposé un recours. Le naturisme, ça n'existe pas seulement dans la Manche. En même temps, dans la Manche, je me dis, c'est en période de canicule, surtout que c'est parce que il fait quand même pas toujours très chaud.
Ouais, tu peux apporter.
Bon, il y en a partout. Toi qui Laura, tu vas en Corse, il y a des plages naturistes. Est-ce que ça pose un problème?
À partir du moment où tout le monde respecte les règles, non, mais c'est toujours pareil. Et on a le cas, par exemple, un truc très con en parallèle. Tu prends les parcs. Avant, t'avais le droit de ramener ton chien au parc tranquille. Maintenant, comme il y a des gens qui ont décidé d'être complètement mal élevés et de ne plus ramasser les défections de leur chien.
Et de pas tenir en laisse leurs chiens.
Donc maintenant les chiens sont interdits dans les parcs. C'est pareil malheureusement pour. Alors moi je n'apprécie pas ça. J'estime ça presque révoltant d'emmener son gamin en bas âge dans un truc naturiste. Mais c'est mon opinion. Ça ne veut pas dire que j'ai la vérité absolue. Si tu veux le faire, tu le fais. C'est ta vie. Tu fais ce que tu veux avec tes gamins. Mais pardon, j'écoutais, je suis allée regarder. J'entendais une dame qui promène son chien et qui me dit, moi j'en ai marre à chaque fois que je vais promener mon chien de les voir à moitié à poil en train de copuler sur la plage comme si de rien n'était. Elle dit, ils sont à la vue de tous et
donc
et
en fait débordent. C'est des lieux de rencontres sexuelles.
Mais c'est ça en fait, ils débordent de l'espace qui leur est attribué qui est un petit peu à l'écart. Ils débordent et en plus il y a des comportements qui sont illégaux. Donc c'est très triste pour ceux qui adoraient cet endroit et qui respectaient les règles, mais malheureusement comme d'habitude les incivilités des uns font la restriction de liberté des autres.
Ouais. Vas-y, Fatima.
Moi, je suis pas du tout pour punir tout le monde, justement. Enfin, ils peuvent punir l'exhibitionnisme sexuel.
Ils se comportent pas.
Voilà, on punit l'exhibitionniste, justement. On punit plutôt ceux qui ne respectent pas les règles. Mais si c'est un endroit bien délimité, bien signalé, où ils ont l'habitude d'aller depuis longtemps, j'aimerais bien entendre des naturistes ou des nudistes aussi.
Marilyn va nous dire ça dans un instant.
Mais moi, je trouve qu'on les met dans le même, qu'on mélange tout, l'exhibitionnisme, le libertinage, le naturisme, alors que ce sont des pratiques différentes et certaines sont légales et d'autres illégales. Donc punir tout le groupe pour les débordements de certains, je suis pas trop pour. Sachant que je suis pas naturiste.
Ouais.
Mais non, c'est pas mon truc. Mais si les gens aiment ça, ils me gênent pas.
Charles, moi, je pense qu'on est quand même
naturiste dans le Jura.
Non, je pense qu'on est. Je trouve que je trouve ça déplaisant.
Le naturisme?
Oui.
Mais tu veux l'interdire?
Si j'étais maire d'une ville dans laquelle
il y a des plages,
j'interdirais volontiers le naturisme.
Pourquoi c'est déplaisant pour toi?
Ben je trouve ça désagréable. Je veux dire, ça fait quand même quelques milliers d'années qu'on s'habille. Je pense que en général, en plus, sans être injurieux, c'est pas toujours les corps les plus sculptés qui se donnent à voir. Je pense qu'on peut mettre un t-shirt et un short, c'est pas demander aux gens non plus quelque chose d'extravagant. Je trouve ça désagréable.
Marilyn est avec nous. Elle est du côté de Lille. Bonjour Marilyn.
Bonjour. Alors déjà, c'est un grand plaisir d'être enfin prise en ligne. J'adore vos trois commentateurs. J'ai une petite faiblesse pour la super prof de français.
Fatima.
Ah bah c'est oui, gentil. J'aurais adoré la voir comme prof. Mais bon, c'est du détail. Par rapport.
Vous êtes naturiste ?
Alors, je ne l'étais pas du tout. J'ai eu une éducation très prude. Pour mes parents, c'était perversion, voyeurisme, c'était sale, c'était... Enfin bref, c'était démoniaque. Et donc, j'ai tenté, un peu à cause de mon époux, d'abord en Espagne. Là, oui. C'était du nudisme. Et là, c'était à la limite du bésodrome.
Ah oui,
tout le monde se tripotait, les textiles passaient le long de la plage pour regarder, puis ils s'arrêtaient. Et puis,
le Cap d'Agde, quoi.
Je connais pas le Cap d'Agde, donc je peux pas dire, mais en tout cas, Malaga, je peux vous dire que là, il y a des plages, ouf, c'est chaud patate.
Mais vous avez continué parce que c'est juste être libre,
le plaisir
d'être dans l'eau nue, d'être au soleil nu, c'est ça?
C'est le plaisir que j'ai découvert à nager nu en mer,
ça, c'est vrai.
Absolument... incroyable. J'aurais jamais imaginé ça.
Ah, c'est vrai.
Donc, ça, c'est la petite chose qui a fait que, en France, on a retenté l'expérience, mais sur une plage naturiste. Et là, j'ai découvert une sacrée différence. C'est-à-dire que la deuxième et troisième fois, on a rencontré des mêmes familles. Et ces familles nous ont souri, nous ont dit bonjour, ont pris de nos nouvelles le troisième jour. Enfin, c'était hyper convivial. Et cette année, on a sauté le pas, parce que grâce à cette expérience, on est parti dans un centre naturiste de vacances, où là, vous êtes naturiste.
D'accord, ici, oui. Vous faites tout à poil.
Attendez,
vous faites vos courses à poil.
C'est les courses et tout, c'est tout un truc.
Il n'y avait pas de super.
Ah ouais, parce que ça, c'est non, un truc ça, aussi. Quand même.
Mais vous êtes dans le camp où vous baladez à poil tout le temps, quoi, en fait, c'est ça.
Oui, alors vous avez le droit d'avoir votre pareo, de l'avoir sur l'épaule, machin. Et puis, de toute façon, il faut avoir une serviette pour pouvoir s'asseoir là où...
C'est hygiénique.
Par principe de précaution. Mais alors, j'ai découvert quelque chose. Moi, j'ai des barrières qui sont tombées. J'ai découvert que le corps n'est pas sale. C'est pas de la perversion. Je n'ai jamais eu autant de contacts humains sincères que dans ce centre de vacances.
Mais alors, qu'est-ce que vous pensez du maire qui prend cet arrêté? Parce que lui, j'en ai marre des exhibitionnistes. Donc, punition collective, quoi, en fait.
Les exhibitionnistes.
Mais je pense qu'en fait, il faut demander à l'association qui gère cette plage, potentiellement, à faire en sorte que le respect naturel soit respecté. Interdire pour interdire, c'est bon, quoi. On a plus deux ans. Celui qui va aller se faire tripoter ou celle qui va se faire tripoter dans les fourrés, merci, au revoir.
Marilyn, dans tous les cas, vous êtes simplement pour c'est la liberté du corps et puis respectons. Restez avec nous, Marilyn, parce qu'on a Didier qui est du côté des Côtes d'Armor, qui est retraité et qui est adepte du nudisme. C'est ça aussi, Didier.
Quoi différence?
Oui, c'est ça.
Oui, c'est allô. Oui, alors c'est quoi, la différence entre bonne question, Laura, la différence entre nudisme et naturisme?
Je vois pas d'autre différence, moi. Si vous voulez, j'ai le corps qui est là, qui soit nu sur une plage, ça me dérange pas du tout, quoi. Ce qui me dérange beaucoup, c'est justement cette idée de se dire « ouais, il est nu, non, c'est pas un pervers, c'est quelqu'un qui est sur une plage, qui bronze, qui se baigne. »
Mais visiblement, sur certaines plages, ça dérape.
À certaines plages, ça dérape. Mais excusez-moi, je suis un adepte du Cap, donc je sais ce qu'il en est.
Du Cap d'Agde.
Le Cap d'Agde, oui. Donc là, j'ai une grosse différence entre le Cap d'Agde...
Didier 58 sur OnlyFans. on le connaît.
Non, c'était une vanne. C'était votre pseudo.
Non, pas du tout. Alors, en plus, c'est même pas mon pseudo.
Ah bon?
Ce que je veux dire par là, c'est que ce que disait votre personne juste avant, c'est que c'est intéressant parce que, en fin de compte, moi, tous les gens que je connais qui font ça, en fin de compte, on n'a plus la vision du corps comme on peut l'avoir c'est avec ça. Une personne qui a un maillot de bain. Ça vous fait marrer, hein?
Non, mais
non,
c'est
non, c'était non,
mais
la
pas
blague
du tout.
D'Alain qui vous trouvait des surnoms. Ça, c'est pas ce que vous disiez.
Il peut m'en trouver plein s'il veut, mais ça, c'est pas un problème.
Non, mais voilà, le problème, c'est que.
Et est-ce qu'aujourd'hui, ça a changé?
Le collectif est victime des voyeurs et des exhibitionnistes.
Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Là où je vais, il y a effectivement ce que disait un espace côtier, c'est-à-dire qu'il passe au-dessus de la plage. Ça, c'est vrai que nous avons toujours des voyeurs, des pervers voyeurs. Ça, c'est embêtant. Mais après, bon, nous, on est sur la plage. S'ils descendent pas pour nous embêter, il n'y a pas de problème, quoi. C'est leur problème à eux. Hein. C'est voilà, ils ont toujours des, il y a toujours des gens qui n'ont pas vu de corps nu ou je sais pas.
Parce que Laura tout à l'heure, elle disait, moi il y a quelque chose qui me gêne, c'est quand il y a des enfants. Alors je sais pas si Marilyn, elle nous disait qu'elle avait côtoyé des familles avec des enfants. Alors, et vous,
moi,
Didier?
Moi je vois beaucoup d'enfants, de jeunes enfants. Par contre, dès qu'il y a une période d'adolescence, écoutez, sur la plage où je vais, il y a un rocher qui délimite entre la plage nudiste et la plage habillé, textile. Et je remarque beaucoup que la période d'adolescence, en fin de compte, les jeunes gens ne viennent pas de ce côté-là. Ouais, ils vont du côté textile. Moi, j'ai des amis où les parents sont sur la plage nudiste et les enfants sont plus loin.
Oui,
c'est-à-dire que à la période adolescente, ce qui est logique, hein, moi, je trouve ça, la découverte du corps, c'est pas toujours évident. Mais des petits-enfants, j'en ai vu, oui, j'en ai vu.
Alors,
3, 4 ans, 5 ans.
À hauteur
Marilyn
de l'ange,
et Didier,
ça, c'est
je voudrais qu'on termine avec Corinne. Corinne, qui est dans le Var. Bonjour, Corinne.
Oui, bonjour, Alain. Bonjour, toute l'équipe.
Vous comprenez la décision du maire qui dit, moi, j'en ai marre des pervers, donc je ferme?
Alors, oui et non. Dans la mesure où, moi, habitant dans le Var, il y a une plage qui s'appelle les Salinguières. Excusez-moi, j'ai une petite extinction de voix.
Je vous en prie.
J'ai pratiqué le naturisme d'à peu près l'âge de 23 ans jusqu'à 35-38 ans.
Ouais.
C'est une plage, j'avais un détail croustillant. Nous sommes allés avec des amis, il faisait un peu de vent ce jour-là. Il y avait une petite dune avec des joncs, enfin, avec des plumées, vous voyez, un petit peu. Et on voyait une petite masse noire au bout. Et nous on a cru que c'était un chien. Donc on fait oulala le toutou, et puis nous comme dans les sacs gourdes hein, à l'époque. Et non, c'était pas du tout un chien, c'était un gars qui était en train de se masturber.
Ah dis donc, il devait être poilu quand même, parce que pour le confondre avec
c'était
un plus.
C'était la tête qu'on voyait en fait. On n'a pas vu le visage.
Et sa tête.
Oui, là que la tête. Et donc quand on a réalisé ça, on s'est dit stop, on est parti. Et puis il faut savoir que sur les plages de naturistes, il y en a des bienveillantes et pas bienveillantes du tout. L'autre anecdote, c'est-à-dire que quand on se met sur une plage de naturistes, nous sommes 3 ou 4 nanas et que les gars viennent se mettre juste en face de nos entrejambes,
ça va pas.
Bien sûr, vous avez.
Le gars qui arrive, qui fait le shérif avec sa petite médaille orange et qui va chercher pour qu'on s'accouple à droite, à gauche de la plage des Salinguières.
Ah d'accord, effectivement.
Le
Var, où il y a un des plus vieux centres de naturistes de France, qui est l'île du Levant. D'ailleurs, si je ne m'abuse.
Il y a des militaires et des naturistes sur cette île.
Corinne, merci, vous aurez conclu la discussion. Merci de vos témoignages. Interdire les plages nudistes, oui ou non? On va regarder vite fait la consultation, ce que vous en pensez. C'est quand même 60-40. Le maire.
Non,
liberticide. Ce qu'a fait le maire, c'est liberticide.
60%.
Bonjour Estelle Denis.
Salut Alain, salut les GG. Écoutez, nous, on va parler des prises de parole très nombreuses d'anciens ministres qui n'ont pas forcément réussi dans leurs fonctions. Vous avez entendu Bruno Le Maire ce matin sur RMC qui nous propose sa vision de la France. Est-ce que les politiques doivent se taire quand ils ont échoué? Mais écoutez, ce sera notre question dans un instant.
Peut-être qu'ils pensent avoir réussi.
Alors, à mon avis, même ses amis ne défendent pas son bilan. Enfin, c'est pas lui manquer de respect que de dire qu'il n'a pas.
Je ne crois pas à la deuxième chance.
C'est un loupé.
Mais là, je trouve qu'il y a beaucoup d'assurance dans ma vision de la France.
On apprend dans l'échec.
Oui, écoutez, nous verrons ça avec nos chroniqueurs. Il y aura Cécile Duflot, qui est avec nous, qui a été ancienne ministre. Elle nous dira ce qu'elle en pense justement. On parlera de l'idée de Clémence Guettet, c'est une députée LFI, qui prône des jours de congés supplémentaires pour aider des amis. Ça s'appellerait le congé amitié, en quelque sorte. Aujourd'hui, on peut avoir des jours de congés quand vous avez la tante de votre conjoint qui décède et que vous n'avez jamais vu de votre vie. Mais vous n'avez pas de jours de congés quand votre meilleur ami décède. Donc, est-ce qu'il faut changer ça? Est-ce qu'il faut accorder des jours de congés supplémentaires au nom de l'amitié? On en parlera à 12h30. On se demandera s'il faut augmenter le prix de l'eau pour responsabiliser les consommateurs. Ça, ce sera à 13h30. Et puis, il y a une pédagogue et ancienne prof qui vient de sortir un livre. Faut-il apprendre à lire aux enfants dès la maternelle? Est-ce que ce serait, selon vous, une bonne ou une mauvaise idée? Oui, mais sauf qu'aujourd'hui.
Il commence en dernière année de maternelle.
Oui, mais aujourd'hui, il y a un tiers des enfants qui ne sait pas lire correctement un texte en arrivant en CE1. Donc, c'est évidemment problématique.
Arrêtons de faire des enfants
d'alphabet. Oui, Alain.
Et le tu préfères ?
Et le tu préfères ? Crêpes ou gaufres ? Voilà, 14h25, le débat va être extrêmement rude.
Crêpes.
Gaufres.
Désolée. La crêpe a gagné avec les GG.
Crêpes nature.
Mais non, crêpes au grand marnier, voilà.
Un petit peu de sucre.
Avec modération.
Peut-être avec un peu de citron, moi j'aime bien avec
beurre, oui, sucre citron.
Ah ouais, c'est bien.
Allez, 32-16 pour réagir avec Estelle en direct jusqu'à 15h.